Amis de Radio Occitanie de la Poésie, bonsoir, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Ce soir, nous avons la joie de recueillir ici, dans ce studio de la rue de la Salie, M. Philippe Dazébrun, qui est le secrétaire perpétuel de l'Académie des Jeux Floraux. Monsieur le secrétaire perpétuel, bonsoir.
Bonsoir, merci de m'avoir invité.
Alors, vous êtes secrétaire perpétuel de l'Académie des Jeux Floraux, le dernier en date. Vous avez été élu récemment.
En avril dernier, succédant à la grande figure toulousaine et culturelle qui était Georges Maillot.
Alors, si vous le voulez bien, nous allons parler de l'Académie des Jeux Floraux, de l'histoire de l'Académie des Jeux Floraux qui marque totalement notre ville, la culture de notre ville depuis très longtemps, de la figure emblématique de Georges Maillot. Mais auparavant, je vais faire comme d'habitude toutes les semaines, nous avons l'habitude de présenter au moins une publication de poésie. Alors bien entendu, il n'est pas question de faire le tour de tout ce que nous avons reçu. Nous remercions bien sûr tous les éditeurs qui veuillent bien nous adresser donc leurs publications. Nous en rendrons compte au fur et à mesure de ces envois et de nos moyens. Et de toute façon, toutes ces parutions sont en ligne sur notre site les-poètes.fr. Alors je voudrais ce soir parler d'un éditeur qui nous est cher. Il nous est cher d'abord parce que nous l'avons reçu ici, Claude et moi. Il s'agit de Bruno Mcika. Bruno Mcika, qui est le directeur des éditions Carder à Avignon, et qui fait l'effort de publier des œuvres de poésie. Bien entendu, il ne publie pas que ça, mais il a toujours tenu à avoir une collection de poésie. Alors, sa dernière publication, la dernière parution des éditions Carder en poésie, c'est de Émilie David, poème sans amarre. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il y a peu de notices sur l'auteur elle-même, Émilie David, mais ce que l'on peut dire, c'est que ce recueil est également illustré des photos de l'auteur elle-même, des photographies qui sont en noir et blanc, sont de très belles photographies, et je vais vous donner un aperçu, un extrait de cette poésie d'Émilie David. Danser la vie sur le fil des nuages, repousser l'aube, ignorer l'horizon et rire. Rire pour repousser la mort et pour vivre plus fort. Tisser des liens de rire de toi à elle et de vous à nous. Narguer l'ennui dans un sourire, écarter le chagrin, oublier d'être sérieuse, enfin. Et ramasser les éclats de rire, collectionner les instants de grâce et les fragments de glace. Le petit prince l'avait compris, c'est véritablement utile puisque c'est joli. Comme taureau, suivre scrupuleusement le journal du temps, noter les gouttes de pluie, surveiller la santé du vent, soigner un rameau d'églantier, rendre hommage au peintre pré-raphaélite, bâtisseur de nuages, s'incliner devant le soleil, respecter le pèlerinage vers les cimes du temps et s'endormir. Émilie David, donc une poésie de contemplation, écrite dans un langage tout à fait contemporain, très bien illustré, très bien mis en page par l'éditeur. Notre petit exemple. Dans les décombres d'une ère voileuse, s'insurgent les voix des oiseaux sans réponse, stopper l'orage, envaporer et iriser les nuits sans chien, des volutes d'amour ruissellent au creux du soir. Émilie David, aux éditions Carder. Le volume est à 12 euros. Voilà pour l'annonce que je devais faire. Alors, revenons à l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse. Monsieur le secrétaire perpétuel, cette académie est une des plus anciennes, sinon du monde, du moins, ça c'est sûr, d'Europe. Est-ce que vous pouvez nous brosser un petit peu l'historique de cette académie qui est, nous sommes ici à Radio Occitanie, totalement lié à la langue et à la culture d'oc.
Oui, en effet. Cette académie est reliée à une tradition. Une tradition qui date du XIVe siècle, c'est-à-dire à un moment, la date exacte, c'est 1323. À un moment où nous sommes à quelques années, quelques décennies de l'écrasement du peuple de Toulouse et du peuple d'Oc par les troupes royales, hein, après la fameuse croisade des Albigeois.
Du Montségur.
Absolument. Et face à cette déferlante des gens d'Oyle, la culture d'Oc est restée très vivace. Et il se trouve que pour célébrer cette culture, puisque le politique était dépossédé en quelque sorte, c'est une volonté de quelques-uns que de ressusciter une forme d'identité, on parle beaucoup d'identité aujourd'hui, mais vous voyez qu'à l'époque aussi, d'identité de langue d'Oc, autour de la culture, c'est-à-dire autour de la poésie en particulier. Et donc, sept personnages de Toulouse, en 1323, se réunissent pour donner rendez-vous. Nous sommes à la Toussaint, à peu près, vous voyez, au même moment qu'aujourd'hui. Se réunissent pour donner rendez-vous à des poètes le 3 mai suivant, donc 1324, pour cette joute de poésie orale, où il s'agit d'être récompensé par un prix qui d'ailleurs est décerné par ces sept troubadours, mais payé par les capitouls, c'est-à-dire payé par l'autorité politique locale, et ce prix est une violette d'or. Voilà. Donc la tradition des jeux floraux remonte à quasiment aujourd'hui, nous sommes à quelques années de cela, à 800 ans, par la déclaration, en quelque sorte, à travers ces sept hommes, qu'on dit sept troubadours, mais en fait, vous aviez, on dit un damoiseau qui était Bernard de Panassac, vous aviez deux changeurs, deux marchands, un notaire, donc vous voyez, c'était la petite bourgeoisie, on dirait aujourd'hui. Mais en fait, c'est une volonté populaire, vous voyez, autant l'Académie française est née de la volonté royale, c'est-à-dire de l'autorité politique en place, donc, je dirais, l'autorité descendante. Ici, nous avons affaire plutôt à un acte populaire qui remonte en quelque sorte pour l'instaurer en institution. Et donc le 3 mai 1324, ces sept troubadours entre guillemets ont accueilli les candidats et la violette d'or a été décernée à l'époque à un certain Arnaud Vidal de Castelnaudary, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Et depuis lors, nous n'avons jamais cessé, hormis les périodes révolutionnaires où les académies, quelles qu'elles soient d'ailleurs, de France et de Navarre, ont été supprimées, nous n'avons jamais cessé de distribuer ces fleurs.
Alors ça, c'est tout à fait quand même extraordinaire. Le prix dont vous parlez a été la récompense d'une kansu pour une ode à la Vierge.
Oui, hein, oui. Voilà. Oui. Qui est aujourd'hui récompensé, l'ode à la Vierge, par un lys. Ce n'est plus la violette, c'est un lys.
Donc il y a aussi il y avait une vocation quand même religieuse aussi.
Forcément, plus ou moins. Ouais. C'est-à-dire que tout était entremêlé à l'époque, n'est-ce pas? Le religieux, le sacré, l'art oratoire. Donc il y avait forcément une dimension religieuse, oui.
Et la chanson à la Vierge aussi, on va rejoindre là un petit peu l'érotique des troubadours, puisque les mêmes troubadours, René Nelly l'a bien montré par la suite, avaient ce thème de l'ode à la femme, c'est-à-dire de la louange de la femme. Hein.
Oui, bien évidemment. Voilà. Et alors, il est assez révélateur que l'Académie soit très liée aussi à une figure féminine.
Alors voilà, donc on repart sur une figure féminine qui est celle de Clément Cisor.
Et oui, des dames Clémence.
Voilà. Alors parlez-nous de ce mythe-là de Clémence.
Ce mythe de Clémence, on en voit des traces, si vous voulez, au XIVe siècle. C'est-à-dire que dans les registres des comptes de Toulouse, on s'aperçoit que dans l'exercice de 1388-89, il est fait mention que 10 sols sont attribués à l'inscription d'une épitaphe en l'honneur de Dame Clémence. Bon. Et puis on oublie un peu l'affaire, et si vous voulez, cette Dame Clémence revient dans la mémoire des Toulousains, et des Geoffroyants en particulier, au XVIe siècle. On prétend que, alors là on lui accole au prénom de Clémence le nom d'Isaure, on prétend que cette Clémence Isaure était bienfaitrice des Geoffroyants. Voilà. Et de ce fait, cette figure à demi réel, à demi légendaire, on ne sait pas trop, mais en tout cas il y a des traces effectivement dans les textes, est la muse, l'inspiratrice, la bienfaitrice des Geoffroyants, et depuis d'ailleurs le XVIe siècle, je crois que c'est 1517, chaque année est prononcé l'éloge de Clémence Isaure par un des nôtres.
Clémence Isaure qui trône d'ailleurs dans la salle de l'hôtel d'Assesa où se réunit actuellement l'Académie des Geoffroyants.
Oui, absolument. Alors cette statue a été reprise, restaurée d'un gisant d'une dame Isalguier au XVIe siècle, et on l'a transformée en Clémence Isaure, et on l'a transportée à l'époque au Capitole, oui, qui était la salle de réunion de ce qu'on appelait le collège de rhétorique, qui faisait suite au groupe des jeunes et jeunes troubadours dont je parlais tout à l'heure, c'était les sept troubadours, qui constituaient eux le consistoire du Gai Sabé, du Gai Savoir. Voilà. Et donc ce collège de rhétorique tenait ses séances à la salle du Capitole, dans une salle du Capitole, sous l'auguste regard de Dame Clémence. Alors depuis, en effet, elle est à la salle de conférence de l'hôtel d'Assesa, qu'on a appelée salle Clémence Isaure. Voilà. Et on lui a un peu tordu les bras pour qu'elle puisse tenir le bouquet traditionnel qui fait sa raison d'être aux Geoffroyants.
D'accord. Alors, les Geoffroyants s'installent à l'hôtel d'Assesa, à quelle époque?
Ah oui, alors ça, donc, c'est effectivement, c'est au XIXe siècle, fin du XIXe siècle. C'est-à-dire que le Capitole était le lieu, je dirais, traditionnel de la réunion des mainteneurs, puisque c'est ainsi que nous appelons ceux qui doivent maintenir les traditions à l'Académie. On pourra en reparler tout à l'heure, hein, des académiciens.
Oui, bien sûr.
Et donc les mainteneurs se sont retrouvés parce que les travaux du Capitole étaient nécessaires sans lieu de réunion. Et on a fait bien comprendre que le Capitole avait une autre vocation que de recevoir les Geoffroyants. Et à ce moment-là, 1895, c'est une année importante, 1895, pour de multiples raisons. Un mainteneur de l'Académie devient un bienfaiteur de l'Académie, c'est Théodore Rosen, qui achète l'hôtel d'Assesa. Et par un accord qui est signé avec la municipalité et un testament qui le précise, Théodore Rosen donne cet hôtel d'Assesa à la mairie de Toulouse, avec pour obligation d'y conserver, d'entretenir les locaux d'une part, et d'y conserver les académies, les sociétés savantes de Toulouse. Voilà, il y en a cinq qui se trouvent là, et la première d'entre elles est l'Académie des Geoffroyants.
Donc, un personnage assez extraordinaire, Théodore Rosen. Hein, il y a une rue importante de la ville de Toulouse qui porte son nom. C'était un des grands donateurs, quand même, très généreux vis-à-vis de la ville de Toulouse. C'était un grand industriel. Il était conseiller prud'homme. Ce qu'on ne sait pas, peut-être aussi. Hein, donc, il avait des fonctions qui étaient une fonction élective, surtout à cette époque-là. C'est parce que c'était important. Mm-hmm. La fonction de conseiller prud'homme disait conciliat et servat. Hein, il fallait concilier et servir. Et donc, il fait don de ce magnifique hôtel qui est un des plus bel hôtel quand même de Toulouse, aux sociétés savantes. Et dans les, je crois que c'est en 2000, cet hôtel, ou 2003, je ne me souviens plus, va être partagé entre les sociétés savantes et la fondation Bamberg, donc qui est une fondation aussi prestigieuse de notre alors donateur, hein, puisque Bamberg a fait don donc à la ville de Toulouse, hein, qui est de ses, tout l'ensemble de sa collection, et qui s'est installé dans une des ailes de l'hôtel d'Assesa.
Oui, quand Théodore Ozen fait l'achat de cet hôtel particulier, il a fallu le rénover. Et c'est sur ses fonds propres que la rénovation s'est faite. Et il n'y avait eu guère, effectivement, de rénovation depuis. Et lorsque il s'est agi de laisser une place de cet hôtel à la Fondation Bamberg, celle-ci s'est chargée aussi de restaurer cet hôtel, qui est un des joyaux, en effet, vous l'avez dit, je le crois, un joyau architectural toulousain. Oui.
C'était le moindre des choses, quand même.
Oui.
Alors, les visiteurs peuvent venir voir cet hôtel, puisqu'il y a à la fois donc ces sociétés savantes et cette fondation Bamberg, donc il est visible au public en permanence. Hein.
Oui,
il y a eu d'ailleurs cette année un très très beau spectacle de son et lumière sur l'hôtel d'Assesa. Donc une société savante, une société littéraire, une société de poésie, qui privilégie au départ la langue doc, qui s'installe maintenant en 1895 dans un des hôtels les plus prestigieux de la ville de Toulouse, une société qui, sous le pouvoir royal, avec Louis XIV, lorsque Louis XIV a créé cette académie, le français était devenu la langue exclusive. Hein. Et puis c'est sous l'influence de Frédéric Mistral, hein, en 1895, que la langue doc revient à l'Académie des Jeux Floraux. Et 1895 à 1904, hein, Frédéric Mistral aura le prix Nobel de littérature. Donc on est là, encore une fois, je pense que l'Académie des Jeux Floraux, et c'est à la fois la tradition, mais ça, et la modernité. Elle était en définitive, en revenant à la langue d'oc en 1895, on peut dire qu'elle était d'avant-garde, hein, puisque en 1904, l'Académie suédoise donc récompense une œuvre en provençal. Hein. Alors, cette académie.
Je peux ajouter une chose à ce que vous avez dit, parce que effectivement, Mistral, qui est fait alors maître à jeu à l'Académie en 1878, a été en effet le promoteur, vous l'avez dit très justement, en 1895, du retour de la langue occitane. Et il y a une autre figure qu'il faut associer aussi à Mistral, me semble-t-il, et Georges Maillot s'y tenait beaucoup, c'est la raison pour laquelle j'y tiens aussi, c'est Jean Jaurès.
Ah oui.
Jean Jaurès, qui était au conseil municipal de Toulouse à l'époque, et le conseil municipal se posait la question de l'utilité de cette académie dans le paysage culturel toulousain. Et finalement, celui qui va faire en sorte que la majorité se place dans le maintien des subventions pour l'académie, et donc de la survie de l'académie quand même, c'est Jean Jaurès. Jean Jaurès qui a argué le fait que l'académie de Toulouse, l'académie de Jeux Floraux, servait la langue d'oc, d'une part, grâce à Mistral, mais aussi par la tradition reprise, comme vous l'avez dit, et servait le rayonnement culturel de Toulouse. Donc il était aberrant que la municipalité se prive de cet outil, en quelque sorte, du rayonnement culturel de Toulouse. Donc on lui doit cela, et je crois qu'il faut le souligner.
Oui, alors je crois que ce que vous dites est très important, ce que vous venez de dire, hein, sur l'image de Jaurès, qui a été adjoint ici à l'instruction publique à l'époque, qui a été professeur à l'université de Toulouse, professeur de philosophie, et qui, lors de un de ses voyages au Portugal, dit qu'il trouve à Lisbonne bien entendu des ressemblances importantes avec, avec Toulouse, mais également il dit que la langue qu'il entend lui rappelle effectivement la langue d'oc à laquelle il tient et dont il avait compris l'importance culturelle. Et il n'a cessé de défendre cette langue qu'il portait bien au-delà du simple, ce qu'on appelait le simple patois de l'époque. Il en avait compris quand même la valeur, puisque c'est la langue des troubadours, c'est la langue de Goudelli, hein, qui est quand même...
C'était un philosophe. C'était aussi un historien. N'oublions pas qu'il avait écrit une histoire de la Révolution française, et il savait que le présent était tenu par l'histoire, en quelque sorte, pour bâtir l'avenir. Donc on ne pouvait pas se déraciner de ce qui fait la force d'un peuple tel que nous l'avons aujourd'hui.
Alors, cette Académie de Jeufleureau, elle est composée de combien de membres et comment arrivent-ils à l'Académie ?
Alors, il y a deux catégories d'académiciens, je dirais. Il y a les mainteneurs, qui sont les descendants des sept troubadours, si je puis dire, et les maîtres à jeu. Pour les mainteneurs, c'est lorsque Louis XIV a délivré en 1694 ses lettres patentes, qui transforme ce collège de rhétorique, comme je l'ai dit tout à l'heure, en académie. Donc ce sont ces lettres patentes qui nous érigent en académie. Il prévoit 36 fauteuils de mainteneurs. Et ce n'est que plus tard, c'est sous Louis XV, en 1773, qu'on ajoute 4 fauteuils pour que nous soyons 40. Donc l'académie a 40 mainteneurs. Ils sont élus, cooptés par les membres qui sont titulaires, je dirais, de leur fauteuil depuis leur élection et après réception, car il y a une période, je dirais, de limbe entre l'élection et la réception. C'est-à-dire qu'on est vraiment académicien. On peut assister aux séances, etc., entre-temps, certes, mais on est vraiment installé sur son fauteuil que lorsque la réception a eu lieu. Voilà. Et donc là, on peut participer au vote et donc élire ses futurs confrères. Donc voilà comment cela se passe. Pour les maîtres à jeu, c'est différent. Les maîtres à jeu, il n'y a pas d'ailleurs de quorum. On peut nommer autant de maîtres à jeu qu'on le veut. Ils sont élus par les mainteneurs et sont élus en fonction, si vous voulez, des qualités qu'ils peuvent déployer pour le service de la culture que promeut, notamment poétique bien évidemment, que promeut l'Académie des Jeux Floraux. Et par ailleurs, ils sont aussi élus pour participer aux travaux de l'Académie, de certains travaux qui font notre substance, notre raison d'être, qui sont les fameux jeux floraux. C'est-à-dire qu'entre le mois de février, en gros, jusqu'au mois d'avril, nous nous réunissons, nous suspendons nos activités habituelles pour nous réunir en commission, en bureau, afin de d'établir le palmarès que nous rendons public. Ceci depuis le 3 mai 1324, chaque 3 mai. Voilà. Et donc vous voyez bien la jonction des deux. Les mainteneurs sont là pour maintenir les traditions. Ce sont ceux qui font en sorte que l'Académie soit fidèle aux principes qui sont les siens. Les maîtres à jeu viennent travailler avec les mainteneurs dans le cadre des jeux.
D'accord. Alors, on ne peut pas parler des 40 mainteneurs, ce serait trop long. Par contre, vous êtes le secrétaire perpétuel de cette académie, on peut parler de vous. Donc vous avez été élu en quelle année ?
Alors moi j'ai eu deux privilèges. J'ai eu le privilège d'abord d'être élu maître et jeu en 2005. Et ensuite, mainteneur, en 2009. Alors, ceci ne veut pas dire que être maître à jeu vous propulse, je dirais, à un délai plus ou moins bref, mainteneur. C'est pas automatique. Hein, ce n'est pas. Donc là, j'ai eu cette chance, en fait, d'être élu mainteneur en 2009. Donc je suis mainteneur depuis maintenant bien 7 ans.
Alors vous êtes universitaire.
Hein, oui.
Vous êtes le doyen, vous avez été,
doyen
de l'Institut catholique de Toulouse. Hein. Il y a d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait un très long article sur l'Institut catholique, sur un des journaux toulousains, hein, qui présente l'Institut catholique comme étant à la pointe de la modernité de l'enseignement. Avec les plans Erasmus, etc. Et là, vous enseignez l'histoire.
L'histoire contemporaine.
L'histoire contemporaine.
Voilà. L'histoire contemporaine, je suis spécialiste, je suis historien, mais un historien d'une curieuse espèce, puisque j'ai toujours eu une forme de tropisme vers la littérature. Et c'est la raison pour laquelle mon champ de spécialité est souvent au carrefour de l'histoire et de la littérature par le biais de quelques figures, littéraires notamment, c'est-à-dire je pense bien évidemment à François Mauriac et à quelques autres, même si je me suis aussi intéressé à des hommes politiques. Comme Auguste Champierre-Ribes ou quelques autres. Donc ma spécialité, c'est l'histoire contemporaine. Mais on peut être historien et s'intéresser aussi à la poésie. Et c'est la raison pour laquelle, depuis maintenant 20 ans, 21 ans, je suis un peu responsable, je coordonne un cercle de poésie à l'Institut catholique, qui est le cercle de poésie, voilà, de l'Institut catholique. Voilà. Alors, je ne suis pas le promoteur de cette instance qui réunit des poètes et des amateurs de poésie. Je ne suis que le successeur de quelques personnes qui avaient eu cette idée, hein, de réunir des poètes et de partager sur des textes, sur des thèmes. C'était en 1993 et les promoteurs en étaient à l'époque Monseigneur Duplex, qui était doyen de la faculté de théologie, qui allait devenir recteur de l'Institut catholique et qui est un de nos confrères d'ailleurs, Roger Fleureau. Il y avait le père Busato qui nous a quittés en avril dernier, et il y avait aussi Annie Merle, oui, voilà, qui est aussi maître à jeu dans notre académie.
Alors, l'Académie des Jeux Floraux ne se contente pas de distribuer des prix. Il y a une salle de conférence, hein, qui est la salle Clément Cizor, dont vous parliez tout à l'heure. Et il y a donc des communications, des lectures. Hein. Vous avez fait une lecture, j'ai vu, récemment sur...
sur Richard III, les deux films de Richard III. Voilà. Enfin, il y en a plusieurs, mais j'en ai pris deux en l'occurrence, oui.
Alors, ça fait partie des activités donc de l'académie, c'est-à-dire que ce sont les membres de l'académie qui présentent des morceaux de donc sur des présentations de sujets qui peuvent être des sujets littéraires, historiques.
En fait, il y a deux types de séances, si vous voulez. Il y a les séances privées et les séances publiques.
Oui.
Les séances privées, alors il n'y a que nous qui sommes là pour déguster, en quelque sorte, les réflexions, les recherches des confrères. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que j'ai donné cette lecture, en effet, sur l'approche cinématographique de la pièce de Richard III au travers de deux films. Notre confrère Philippe Carbone nous a donné une lecture il y a peu de temps la présence du basque dans la toponymie de l'Occitanie. Ah oui. Il y a des présences effectivement de basques dans les noms de villes ou villages plus exactement, en particulier en Ariège. Voilà. Et bon, prochainement, on entendra d'autres lectures concernant le rôle de Napoléon dans l'éducation. Enfin voilà, le site tient à informer tous ceux qui sont intéressés par finalement des lectures, alors qui sont le privilège effectivement de quelques-uns, puisque il n'y a que nous qui en profitons, mais après elles peuvent être mises sur le site. Donc le texte peut être ensuite lu par ceux qui visitent le site de l'Académie des Jeux Florent. Donc ça, ce sont les séances privées. Et puis il y a les séances publiques. Alors les séances publiques, elles sont de plusieurs ordres. Il y a d'abord la cérémonie du 3 mai qu'on appelle la fête des fleurs, où on remet les prix. Il y a ensuite les séances de réception des nouveaux mainteneurs, et il y a les mardis d'Acésa, qui a été une création de notre regretté doyen Lazorte, les mardis d'Acésa, qui sont des conférences avec la plupart de ces conférences, ce sont des gens de l'extérieur de l'académie qui viennent donner une conférence. Le 24 janvier, nous aurons le préfet, qui est un des nôtres d'ailleurs, le préfet, puisque nous avons deux sièges qui sont attribués, voilà, pas au préfet d'une part et au maire d'autre part. Et donc nous aurons aussi Perico Legas dans le courant du mois de février pour une conférence sur la littérature et le goût. Ensuite nous aurons, alors l'abbé Passera, qui est un de nos mainteneurs, qui nous parlera du pape occitan Jean XXII. Et enfin, au mois de mai, une professeure agrégée de littérature qui viendra nous parler des voyages de la Pérouse et du capitaine Philippe. D'accord. Vous voyez, donc nous brassons tous les thèmes possibles. Et enfin, quatrième type de séance publique, c'est les colloques. Les colloques qui existent maintenant depuis, je dirais, 5-6 ans, et qui a été une des initiatives de Georges Maillos.
Donc ça veut dire que l'Académie des Jeux Floraux exerce un rayonnement culturel indéniable sur la ville de Toulouse.
Oui, hein, et d'ailleurs, ceci, en quelque sorte, a été sensible dès que Louis XIV nous a conféré ce statut d'académie, puisque à partir de là, nous avions des obligations. Et parmi ces obligations, il y avait la régularité des travaux et aussi le devoir d'imprimer les pièces que nous honorions. Et depuis lors, donc, les recueils de l'Académie Jeux Floraux sont publiés. Donc il y a une impression. Et cette impression, elle n'est obligée, en tout cas, par ces devoirs de lettres patentes, et qui nous pousse, par conséquent, à aller vers la ville, aller vers l'extérieur. On n'est pas recroquevillé sur soi, on est là pour porter une parole, pour dire ce que nous sommes. Et d'ailleurs, à partir du moment où nous étions très liés avec les Capitouls à un moment donné, les liens étaient, je dirais, étroits et manifestes. Il fallait le rappeler.
Oui. Alors, j'ai sous les yeux là, le dernier recueil de l'Académie des Jeux Floraux, le recueil 2016. On peut se procurer ce recueil à l'hôtel d'Acésa.
Oui, on peut le demander.
Sur le site, peut-être.
Sur le site aussi, il y a l'adresse mail qui permet de commander ce recueil, qui est, je dirais, une singularité quand même, parce que lorsqu'on regarde les publications des autres académies qui nous parviennent, on a plutôt dans ces mémoires et dans ces actes conférences ou les travaux des académiciens. C'est le compte-rendu, en quelque sorte, des activités académiques. Au Jeux Floraux, ça n'est pas du tout ça. Au Jeux Floraux, par ce recueil, on ne fait pas valoir les travaux des académiciens, on fait valoir les pièces qui sont primées par l'Académie des Jeux Floraux. C'est-à-dire que vraiment, là, vous avez vraiment la vocation qui est la nôtre. On se tourne pas vers nous, on se tourne vers l'autre, en le désignant comme étant honorable.
Et les recueils antérieurs peuvent aussi être commandés.
Ils Bien sûr, tout à fait. À partir du moment où il nous en reste quelques exemplaires dans nos archives, nous pouvons.
Alors, il y a des archives depuis. Alors c'est important, les archives de l'Académie des Jeux Floraux.
Oui, alors nous avons.
Elles sont conservées à l'hôtel d'Assésat.
Alors pas en totalité. Nous avons des archives qui remontent au début du XVIIIe siècle. C'est-à-dire, j'y étais encore récemment dans les archives et j'ai vu que nous avions des poèmes de 1816. Pour ce qui est de la pièce, je dirais la pièce centrale, qui sont les Leis d'Amor, c'est-à-dire que dans les années 1330, on a demandé au chancelier, le titre était ainsi, c'est-à-dire que lorsqu'on a constitué ce consistoire du GSAB, on a essayé de copier, de reprendre les instances universitaires de l'époque. Donc il y avait un chancelier. Le chancelier, à l'époque s'appelait Molinier, Guillaume Molinier, on lui a demandé de rédiger un traité qui précise les règles de poétique que le consistoire du GSAB attendait. Et il l'a fait, si bien que nous avons ce texte riche en enluminure, qui est magnifique, et que nous ne pouvions pas vraiment garder à l'Académie. Donc il est aujourd'hui, il est notre propriété, mais il est déposé à la bibliothèque du Périgord.
Voilà. Le conseil du patrimoine. Hein.
Absolument.
D'accord. D'accord. Il faudra d'ailleurs peut-être suggérer à la bibliothèque du patrimoine de faire une exposition.
Je crois
avec les pièces, comme elle fait une exposition actuellement sur les Dominicains.
Je crois qu'en 2023-24, il faudra sortir ce trésor.
Oui. Si vous voulez bien, monsieur le secrétaire Berutuvel, nous allons écouter maintenant un des maîtres S-jeux de l'Académie des Jeux Floraux, qui est Franck Bardou, dans justement un texte en Languedoc, Matin vert.
Veleu per un matí mai verd, veleu per respir del desert, passarem veure l'auro fero de l'altro mà de la gran sera. Passarem veure l'auro fero de l'altro mà de la gran sera. Velo per una sei mai blau, velo per i trappa tresor, passarem fugi lo miserio de l'altro mà de la gran sera. Passare in fugi la miseria dell'altro ma della gran sera. Peut-être pour ce matin vert, ou pour le souffle du désert, nous irons boire le vent sauvage de l'autre côté du nuage. Nous irons boire côté du nuage. Velo per un dieu mai gada, o per amour su fuoc brandal, chitarre del sogno sopero dell'altro ma della gran sera. Chitarre del sogno sopero dell'altro ma della gran sera. Velo per un soleil mai caut, velo per un palais tannaut, passare in più un mistero dell'altro mare della gran sera. Passare in più un mistero dell'altro mare della gran sera. Peut-être pour ce ciel si bleu, ces choses qui nous rendent heureux, nous irons fuir notre misère de l'autre côté des mystères. Nous irons fuir notre misère de l'autre côté des mystères. Nous irons fuir notre misère mystère. Nous irons fuir notre misère de l'autre côté des mystères. Nous irons fuir notre misère de l'autre côté des mystères.
Voilà, c'était donc Franck Bardou, un poème de Franck Bardou, mis en musique et chanté par Gérard Zucchetto. Gérard Zucchetto, avec lequel nous avons fait une série d'émissions et dont nous reparlerons bientôt. Alors, monsieur le secrétaire perpétuel, l'Académie des Jeux Floraux, on a dit, est une académie active qui est dans le monde d'aujourd'hui. Et elle est tellement dans le monde d'aujourd'hui que elle organise un colloque très prochainement. Ce sera le samedi 19 novembre, donc qui se tiendra à l'hôtel d'Acesa, de Toulouse. Si vous pouvez nous parler de ce colloque.
Oui, le thème.
Alors, nous intéresse
inscrit,
beaucoup. Hein.
Oui, forcément. Oui. L'Académie dans le paysage culturel toulousain et même au-delà, puisque le thème que nous avons choisi cette année est les Jeux floraux et la culture en Languedoc. Voilà. Et donc, un certain nombre d'entre nous allons parler de certaines questions. Je vais vous en dire deux mots aussi. Mais nous avons aussi fait appel à un spécialiste de l'université, Jean Jaurès. Et ça, je crois que c'est quelque chose à laquelle nous devons tenir. C'est que, l'Académie doit dire des choses au travers de ses membres, mais elle doit aussi, comme nous le disions tout à l'heure, s'ouvrir sur d'autres instances culturelles et universitaires en particulier de Toulouse. Donc, on va balayer un peu les choses rapidement. Vous savez, en une après-midi, on ne peut pas tout dire. Mais enfin, l'essentiel sera dit. Le recteur Mestre, qui est notre premier censeur, parlera de la Compagnie du Gai Savoir et montrera en quoi la Compagnie du Gai Savoir a participé de la renaissance de cette langue d'oc. Donc, un invité qui vient de l'Université du Mirail, qui est maître de conférence à l'Université Jean Jaurès, nous parlera de Godoui, c'est Jean-François Courreau. Les Jeux Floraux et l'Occitan, donc au XVIe, XVIIe siècle. Vous voyez, donc on balaye un peu les choses largement. Maître Bouissou nous parlera d'un personnage tout à fait étonnant, qui est un languedocien, Simon de la Loubert. Simon de la Loubert a eu un parcours tout à fait extraordinaire. Il était mathématicien, il a été ambassadeur de Louis XIV au Siam. Il a été aussi agent secret un peu, en Espagne et au Portugal. Il fallait surveiller de ce côté-là, surtout lorsqu'on était Louis XIV. Et surtout, ce qui a un lien avec nous, il a été le réformateur des Jeux floraux. Voilà. Donc, un personnage haut en couleur dont nous brossera le portrait Pierre Bouissou. L'abbé passera, nous transportera un peu plus près de notre temps, puisque il nous parlera du réveil de l'Occitanie, avec un concours fructueux, le concours d'un côté des faits libres et de l'autre côté des mainteneurs des Jeux floraux. C'est eux, d'après ce qu'il dit, et nous l'écouterons avec beaucoup de passion, c'est eux qui ont ressuscité le terme d'Occitanie, qui est, crois, un peu à la mode ces temps-ci. Monsieur de la Portalière, lui, qui est notre second censeur, nous parlera d'un mainteneur des Jeux floraux qui a eu un rôle assez considérable en matière de culture, qui est Monseigneur Loménie de Brienne, qui fut archevêque de Toulouse, premier des ministres à Paris, ou à Versailles plus exactement, mais lorsqu'il était ici à Toulouse, il a été mainteneur de cette académie et a eu un rôle qu'il nous décrira. Enfin, et nous avons voulu terminer par cela, nous sommes très honorés de sa présence, il est maître à jeu dans notre compagnie, il s'agit de l'ambassadeur délégué permanent de la France auprès de l'UNESCO, qui est son Excellence Laurent Stefanini. Il nous parlera de l'UNESCO, de l'Occitanie, et du patrimoine mondial de l'humanité. Voilà, il terminera en forme d'envoi en quelque sorte. Après tant de réflexions sur le passé, il nous enracinera dans le présent pour nous projeter un peu dans l'avenir.
Alors c'est samedi 19 novembre. À quelle heure, pardon?
C'est à
14h45. Voilà. 14h45, il vaut mieux venir un peu avant.
Oui, un peu avant, c'est à Clément Césor, voilà. Donc à l'hôtel d'Assesa. Voilà. L'entrée est libre, sans droit de participation. Voilà, la culture est gratuite.
Voilà, c'est intéressant de faire connaître ces activités, parce que j'ai peur que les Toulousains, en définitive, ne soient pas très, très informés. Donc je crois que les médias également devraient s'impliquer un peu plus sur ce devoir d'information de la culture, surtout lorsque cette culture émane de notre cité. Hein.
Oui, je pense qu'il y a, mais il y a un travail, je crois, là, qui est en train d'être pris en considération et en compte au niveau de la municipalité pour effectivement englober tous les partenaires culturels dans un sens qui aille vraiment dans l'idée que nous gagnons en synergie plutôt qu'en dispersion.
Alors, si vous voulez bien, nous allons donner comme exemple de création de ces mainteneurs ou maîtres SGE de l'Académie des Jeux Floraux. Nous avons reçu ici, bien entendu, des mainteneurs, nous avons reçu des maîtres SGE. Donc, si vous le voulez bien, nous allons lire des extraits d'œuvres. La première, c'est Simone Allier-Daran, qui a été fréquemment notre invité ici, et qui a publié il y a peu aux éditions Encre Vive, qui a constitué d'ailleurs un numéro de l'abonnement d'Encre Vive, avec un recueil qui s'appelait Syllabes, et puis qui vient de faire paraître un autre livre de poésie qui s'appelle Désinvolte Eros, Simone Allier-Daran étant maître SGE de l'Académie des Jeux Floraux. Je sais le monde écroulé, que j'ai rêvé quand tu m'avais trahi, ce monde qui n'était que morceaux éclatés de mensonges. Je suis un creux sans rêve, un trou noir sans matière, éructé entre deux galaxies qui toutes s'appellent passé. Je me rétrécis comme une peau sur le lait. Je serai un nu sans contour, évanescent jusqu'à l'angoisse, derrière un carreau voilé de brume, cœur griffé, tête plate, ravagé d'inconstance morbide. Dans les vitraux mal lavés, la poussière morcelle une lumière moirée. Cocon clos, milieu secret, percuté par les seaux pressés des hoche-queues, pluie et soleil mêlés dans le même non-être. Rien ne remplacera ce que j'ai de toi perdu. Simone Allier-Daran. Alors ceci pour montrer vraiment que l'Académie des Jeux Floraux, par ses membres, est en plein cœur de la contemporanéité. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'il y a à la fois cette tradition sans laquelle nous serions perdus, s'il n'y avait pas la tradition. Mais c'est justement parce qu'on connaît cette tradition qu'on arrive à se situer, je dirais, en étant à l'aise dans le monde contemporain. Et les membres de l'Académie sont des gens qui s'inscrivent tout à fait dans cette contemporanéité.
Deux choses pour préciser ce souci effectivement que vous soulignez. En 1993, l'un des nôtres a dit et a pensé qu'il fallait honorer la poésie des jeunes. C'est la raison pour laquelle, depuis lors, nous avons un concours des jeunes poètes. Un concours de jeunes poètes qui est en fait un double concours, puisque nous avons deux prix selon les âges. Je renvoie au règlement, ce qui est sur le site. Et puis la deuxième chose, c'est que nous avons un concours de chansons poétiques. Et ceci, nous le devons au professeur Besse, au regretté professeur Besse, qui a été à l'origine de ce concours de chansons poétiques. Je crois que là, on est vraiment à la fois dans la tradition, puisque les troubadours chantaient leurs textes, et aussi dans quelque chose de très contemporain, puisque la poésie se trouve dans la chanson, et la chanson se trouve aussi dans la scansion et dans la poésie. Donc, voilà, nous avons le souci, effectivement, d'être, de maintenir, mais aussi d'être aussi dans le présent pour au mieux respirer dans le temps qui est le nôtre.
Alors nous aurons eu le plaisir de réaliser une émission ici avec une lauréate du prix des chansons qui est Brigitte Maillard, et qui m'avait envoyé un texte assez émouvant lors de du décès d'André Besse.
Oui, qui a été une des lauréates effectivement de la chanson poétique.
De la chanson poétique, oui. Voilà, alors il nous reste juste 2 minutes. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur le... Je crois qu'on a un petit peu déblayé les idées reçues de l'Académie.
Je crois que nos auditeurs auront compris ce qu'est l'Académie des Jeux Floraux. Nous ne sommes pas une vieille académie poussiéreuse, nous sommes vraiment inscrits dans le temps et nous nous projetons dans l'avenir. Et merci de nous avoir donné la possibilité de le dire à votre micro.
C'est nous qui vous remercions, monsieur le secrétaire perpétuel, et nous allons terminer par un poème encore de Franck Bardou, Franck Bardou, Des Nuits, toujours chanté par Gérard Zucchetto.
Tra un côté de sel et de terre, pastote d'arbre di sasù, so che in sera svende soccheros de gioi per ella la rasù. Savo e savu di tut misteri, savo e savu di tut misteri. Fra batte tutto a baso, tra la talenne e la clartà, per non sa forto a caso, contro la fera cruseltà, che tutto soldamo le guaraso, che tutto soldamo le guaraso. Già che le tutto vantano le un passo, come delle spadole sì, te che d'orgoglio la lingua passo,